Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui se passe au XVIIe siècle. Alors cela commence par de la douceur, par une histoire de sucre, de gâteau, de confiserie. Un peu de douceur, disais-je, dans ce monde de brut. Oui, mais même à cette époque-là, au XVIIe siècle, eh bien, même au sein de la douceur et du sucre et du gâteau et du bien-être, eh bien, il y a les petits secrets, les petites mesquineries, les petites jalousies. Enfin, je dis petit, parce que quand cela atteint des gens et que la vie des gens peut être aussi pointée du doigt, ça n'est jamais petit, c'est toujours important. Mais en tout cas, c'est une jolie histoire avec de jolis personnages, c'est une belle écriture et j'ai été ravie de découvrir cet auteur. Sans plus attendre, je vous la présente. Bonjour Brigitte Piéfer.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes pour votre dernier roman. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher le titre. Un petit grain de sucre et un petit bout de secret, c'est ça?
Deux grains de sucre. Un soupçon de secret.
Voilà. Aux éditions, je ne sais pas pourquoi, je ne m'y fais pas, aux éditions Calman Lévy. Alors tout d'abord, on va parler de vous. Qui est Brigitte Piéfer?
Eh bien, pour me présenter, je pourrais dire que j'ai deux passions.
Oui.
À la fois, je suis normande et donc je suis née près du Havre. Et,
très bien.
Et j'ai été professeure d'espagnol pendant toute ma carrière, ce qui fait que dans mon écriture, on retrouve ces deux éléments.
Oui.
Je montre toujours les liens qui existent ou ont existé entre la Normandie et l'Espagne.
Mmh, tout à fait. Alors, je disais, votre livre parle de sucreries, de gâteaux, enfin de douceur, dirais-je, mais douceur dans un monde brut, et ben, le monde brut, il n'est pas loin de la douceur. Hein. Voilà, on va parler de ça. Donc, l'action se situe en 1632, un peu moins de la milieu du XVIIe siècle sur le règne de Louis XIII.
Oui.
Et un confiseur, Edmond Del Prado, est pressenti, en tout cas, est demandé pour qu'il fasse des sucreries pour le passage du roi en Normandie à Rouen.
Oui, tout à fait. C'est même plus que des sucreries, parce que quand le roi arrive en 1632, en fait,
oui,
le sucre étant à l'époque un produit de luxe,
oui,
on a imaginé, ça s'est déjà produit en 1617, donc on lui avait offert toute une table garnie de figurines et de,
ouais,
statuettes en sucre élaborées à partir de, j'ai retrouvé les ingrédients,
mm-hmm,
élaborées à partir de sucre filé, de pâte d'amande, de caramel, de nougatine.
Ça devait être très bon, ça devait être très bon.
Oui, visuellement ça devait être très agréable,
oui,
et
oui,
au moment où on commençait à casser la nougatine, mm-hmm, à distribuer les pâtes de fruits, on devait aussi avoir salivé, j'imagine, oui.
Tout à fait. Alors, bien sûr, c'est intéressant parce que bon, ça se passe en Normandie, c'est à Rouen, et on imagine aisément ce maître confiseur, ben tout heureux de faire plaisir au roi qui est de passage. C'est vrai que on imagine toujours les tables des rois, des poulets, des poulardes, des perdrix, Dieu sait. Et puis là, c'est le côté plus de la douceur, de la chose un petit peu de la cotonnade, comme de la ouade, vous savez. Hein. Donc ça fait plaisir. On se dit que finalement, ben, les rois aussi ont besoin de réconfort. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti au début du livre, parce qu'après les choses se gâtent un petit peu.
Oui, c'est exact, oui, mais effectivement, c'est tout cet assemblage de douceur créé pour lui, pour l'honorer, et donc a dû, encore une fois, visuellement déclencher des hauts ou des has d'admiration.
Voilà.
Et ensuite, il y a tout un éventail de produits qui sont utilisés et qui sont, encore une fois, réservés à l'élite de la société de l'époque.
Alors, ce sont les membres, hein, de la communauté, les édiles, hein, qui ont demandé au maître confiseur Del Prado, hein, de faire cela. Il a été choisi. Mais bien évidemment, un bonheur entraîne parfois aussi des jalousies, des envies, des mesquineries. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et notamment d'Adrien de Mechefeu, qui lui va en prendre ombrage.
Oui, tout à fait, parce que ce jeune confiseur, d'abord, il est très jeune.
Oui.
De surcroît, il est d'origine étrangère, il est espagnol.
Oui.
Et évidemment, ce qui a réellement inquiété à l'époque, c'est que beaucoup d'Espagnols détenaient les raffineries de sucre qui étaient présentes à Rouen à l'époque, et les Normands trouvaient qu'il y avait là une concurrence déloyale. Donc la plupart du temps, ils allaient dénoncer cette concurrence déloyale au Parlement de Rouen, ils écrivaient des lettres de plainte.
Incroyable.
Et ce fait réel me permet de nouer une intrigue. Justement, ce grand commerçant rouennais qui, lui, est dans le négoce des teintures, trouve que c'est un peu exagéré qu'on ait confié une mission aussi importante que celle de recevoir le roi et de l'honorer à un jeune homme espagnol de surcroît.
Alors justement, on va en parler un peu plus loin dans le livre, mais votre livre aussi fait place aussi à une page de notre histoire pas très élégante, en tout cas plutôt noire. On va en parler tout à l'heure. Alors, il a besoin de tous ces ingrédients, et notamment de certaines matières, mais qui viennent du Nouveau Monde et qui arrivent par bateau.
Oui,
et il va et à la livraison, eh bien la cargaison a été saccagée.
Oui, évidemment, il dans un premier temps, il est surtout marqué par cette cargaison qui est gâchée, évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais peu à peu, il s'interroge et il en déduit que on a saccagé les produits qui lui étaient destinés. Mmh. Il ne sait pas encore pourquoi, mais le doute s'est mis dans son esprit, bien sûr. Mmh.
Alors, il fait appel à son ancien maître d'apprentissage, qui est aussi espagnol, qui est réfugié parce qu'il a fui l'Espagne où il suivait moult représailles. D'ailleurs, il vit un petit peu en dehors de Rouen parce que la ville lui a été interdite.
Oui, les commerçants se sont arrangés pour un petit peu pour l'écarter de la ville de Rouen.
Oui, oui.
Et parce que justement, il faisait des bénéfices trop importants par rapport. Et les Normands se sentaient dépossédés de ces bénéfices.
Oui. Alors, justement, on en vient à cette page d'histoire dont je parlais, et là, on va rentrer un petit peu dans le dur de l'histoire parce que l'Inquisition va faire son apparition, et on sait combien ça a été une période très compliquée où les Français se dénonçaient entre eux et on soupçonnait tout le monde et chacun. Comment le lien entre la douceur, entre ce bel événement finalement de ce jeune confiseur qui va régaler le roi, si je puis dire, et puis ce côté très noir de l'Inquisition avec cet Espagnol qui a dû... D'ailleurs, ils ont été tous les deux, ils se sont convertis. D'ailleurs, son maître d'apprentissage et ce jeune confiseur, ils se sont convertis tous les deux. Le maître d'apprentissage était juif à l'origine.
Tout à fait. C'est le cas de beaucoup d'Espagnols et de Portugais qui sont venus s'installer à Rouen dès 1485.
Oui.
Cette vague d'émigration s'est accentuée en 1492 quand l'Espagne chasse les juifs de son royaume.
Oui.
Et aussi, il y a une deuxième vague d'émigration en 1610. Et mon jeune confiseur arrive à ce moment-là. Et ça va être l'occasion pour les marchands rouennais, en entendant son nom d'origine espagnole, de se dire il a quelque chose à cacher, pourquoi a-t-il fui l'Espagne, on fouille un peu dans son passé et on se rend compte que s'il a fui l'Espagne, c'est parce qu'il est venu avec son grand-père se réfugier à Rouen, parce que son grand-père a voulu le soustraire à l'Inquisition espagnole. C'était déjà attaqué à ses parents.
Alors, dans votre livre, je disais, c'est une page d'histoire. Je suppose que ça a demandé aussi des recherches. On sent dans votre écriture, dans votre histoire, dans votre schéma, dirais-je, dans l'ADN de ce livre, que vous êtes très attaché à ça, aux détails, parce que c'est très détaillé, c'est très minutieux. C'est de la couture, de la fine dentelle, je trouve, votre écriture et votre recherche.
En fait, oui, je me suis beaucoup documentée sur la période et notamment sur cette communauté espagnole qui s'est installée à Rouen, parce que c'est effectivement un pan de l'histoire rouennaise et française qui n'est pas très connue.
C'est vrai.
Et très intéressant du point de vue de l'implantation de cette communauté qui a apporté beaucoup, notamment au niveau de la langue espagnole. Beaucoup de personnes à cette époque à Rouen apprenait l'espagnol, on y représentait des pièces en espagnol, mm-hmm. on imprimait des textes en espagnol. On dit que Corneille a eu connaissance
c'est l'époque de Corneille,
d'un livre présentant la jeunesse du Cid, justement par le biais d'espagnols présents à Rouen.
Et oui, c'est l'époque de Corneille sous Louis XIII. Alors, c'est une période, vous disiez, parce qu'effectivement, une période, moi-même, qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, que je connaissais pas bien, pour pas dire pas du tout de ces Espagnols arrivés en Normandie. Est-ce que dans vos recherches, d'une façon générale, malgré tout, parce que on s'aperçoit quand même que ils font des recherches et ils sont un peu exilés parce qu'ils sont d'origine espagnole, est-ce que malgré tout ils ont finalement réussi à s'inclure dans la société et à créer une société à part entière au sein de la ville, ou ça a été quelque chose de très long dans la démarche?
Alors en fait, ceux qui sont arrivés vers 1485 et après 1492, au bout de 2-3 générations, ils ont francisé leur nom. Donc par exemple, quelqu'un qui portait le nom de la ville de Séville, Sevilla, est devenu en français Civil. Et donc on ne reconnaissait plus qu'ils étaient d'origine espagnole. Donc ceux-là arrivaient à envoyer leurs enfants au Parlement de Rouen, marier leurs enfants avec des Normands, mais la deuxième vague de dénigration, qui a encore, bien sûr, leur nom à consonance espagnole, c'est plus difficile pour eux, et même si la plupart essaient de s'intégrer, c'est beaucoup plus compliqué, parce que s'ils font l'effort de manifester, par exemple, qu'ils sont très assidus à la messe, qu'ils baptisent leurs enfants, etc., selon le rite dogme catholique, il y a toujours une méfiance qui s'installe un peu vis-à-vis de ces personnes qui viennent d'arriver et dont on sait, tout le monde sait, c'est une espèce de secret de Polichinelle, que la plupart du temps, s'ils viennent en France, c'est parce qu'ils ont fui l'Inquisition.
Bien sûr. Alors, il y a une chose aussi, alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je trouve ça assez passionnant. Il y a Adrien de Mechefeu. Alors, on dit bien évidemment que souvent, les noms ont été construits par l'endroit où on habitait, le métier que l'on faisait, qui on voyait, du pont, du tonnelier, etc. Et là, je me suis dit, Adrien de Mechefeu, il a dû avoir un ancêtre qui s'occupait du feu, ou qui était, je ne sais pas, tonnelier, et qui fabriquait des tonneaux avec cette mèche à feu. Donc il y a aussi le travail et la découverte et la recherche des noms que l'on a fabriqués au long des siècles, attachés au métier, au village d'où on venait, entre autres.
C'est vrai que j'aime beaucoup essayer de donner un nom à mes héros qui soit en adéquation
avec l'époque.
L'époque, oui, et puis aussi le rôle qu'ils vont tenir dans le roman. Il est vrai que, par exemple, Salvador, qui veut dire sauveur, je n'ai pas choisi, évidemment,
bien sûr.
Choisi bien sûr en connaissance de cause. Et mes cheveux aussi, je me sens me souvenir que dans le dictionnaire de français moyen, ça a le sens de quelqu'un qui serait un peu nuisible, en fait. Et donc, c'est tout à fait ce qu'il recouvre, puisqu'il va chercher à nuire complètement à Simon du début à la fin du roman.
Alors, cette époque de Louis XIII aussi, on est en 1632, le roi est un jeune roi. Vous avez fait également des recherches, alors oui, par rapport aux sucreries, à ce qu'il aimait. Est-ce que c'était un roi gourmand qui aimait bien la bonne chair?
À vrai dire, il vient pour prendre les eaux, donc à Forges les eaux, c'est pour prendre soin de sa santé. Mais bon, je pense qu'il aimait, lors de ses voyages, allier tous les plaisirs, y compris celui, par exemple, du théâtre, parce que pendant qu'on les accueillait, on dressait des tréteaux et ils assistaient à des pièces de théâtre, et puis Quand le roi était fatigué, s'il réclamait une collation, eh bien, on le menait dans une grande pièce où, effectivement, on avait réuni toutes sortes de bonnes choses à déguster.
Oui, et c'était l'occasion pour les rois de rencontrer aussi les notables et les nobles de la région, ou les artisans aussi. C'était une façon d'aller à l'encontre du peuple aussi.
Oui, tout à fait, de réactiver aussi les liens entre les régions, ici entre la Normandie, et le roi.
Et le roi, oui. Eh bien, écoutez, nous allons faire une petite pause musicale. J'espère que ce sera un petit grain de sucrerie pour nos auditrices et auditeurs. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Volontiers.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons, j'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures, moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai porter des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Et nous voilà sur la grande place, sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté de bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, je vous ai apporté de bonbons parce que les fleurs c'est périssable. C'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Allez, je vous ai apporté de bonbons.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes pour le dernier roman de Brigitte Piéfer aux éditions Kalman-Lévy. Alors, tout à l'heure, vous parliez des différentes vagues d'immigration. Il y a une date qui a retenu mon attention, c'est celle de 1610. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, 1610, c'est la date, l'année de mort d'Henri IV, père de Louis XIII. Alors, c'est un hasard, mais ça, voilà, je me suis fait la réflexion.
Oui, c'est un hasard, en fait. Ça correspond aux ennuis, aux tracasseries que ressentent à cette époque-là,
oui,
auxquelles sont soumis les Espagnols en Espagne.
Oui.
C'est ça qui surtout déclenche cette vague d'immigration.
Oui, tout à fait. Alors, il y a également, donc, on disait Salvador, hein, qui est l'ancien maître d'apprentissage de notre héros, on va dire, hein, Del Prado. Ces deux-là, on sort, il y a une forte complicité entre les deux hommes, parce que le pauvre jeune homme ne sait plus quoi faire. Hein, il a ce contrat, dirais-je, à honorer, et puis sa marchandise qui est arrivée du Nouveau Monde par bateau est saccagée. Donc, il va demander à son à son maître d'apprentissage de l'aider, mais on sent une complicité entre les deux hommes. On sent qu'ils vont s'entraider. Est-ce que c'est une période aussi où l'entraide, le partage avec l'autre est important, parce que ce sont des temps difficiles, il faut dire ce qu'il y a. Les gens, la vie des gens n'est pas très facile malgré tout. On se plaint nous aujourd'hui, mais c'était plus compliqué finalement au XVIIe siècle aussi.
Mais effectivement, comme il y a déjà des Espagnols qui sont implantés là, ils ont accueilli d'autres personnes qui arrivaient à ce moment. Mmh. Et il y avait tout un réseau de personnes, d'assistance entre eux. Et ici, c'est effectivement ce que reflète le lien qui unit Salvador et Simon, le jeune confiseur, parce que d'abord, quand Simon est arrivé à Rouen enfant, eh bien c'est grâce à Salvador qu'il a pu prendre connaissance de la langue, du français, qu'il lui a fait connaître Rouen et qu'il lui a donné en plus tous ses secrets de confiseur. Et là encore, il l'épaule pour à la fois donc pallier le manque de sucre puisque sa cargaison a été saccagée, oui, et aussi lui faire réussir sa recette de sucre de pomme, puisque Rouen est la ville où on a créé le sucre de pomme, selon bâton de sucrerie fait avec du sucre, du jus de pomme, et donc qui a un aspect doré. Et comme c'est un long bâton, ça convient très bien pour représenter le sceptre royal qu'on va mettre dans la statue qui va représenter Louis XIII.
Donc il faut absolument qu'il résiste, qu'il réussisse tout cela. Ce que j'ai bien aimé aussi dans votre livre, c'est en fait, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement l'ascension sociale, c'est-à-dire que ce jeune confiseur à qui on confie quand même une mission extrême, hein, c'est faire plaisir au roi et le recevoir, c'est un tout jeune homme, c'est lui donner aussi sa chance.
Oui, complètement. Et c'est lui faire confiance quant à son niveau de ses qualités. Et donc, il a fait ses preuves entre les bourgeois, les notables de Rouen. Et là, bien sûr, il est jeune, il est prometteur. Donc, on lui confie cette mission. Et c'est pour ça qu'il fait des tas d'essais avant de donner la touche définitive à son sceptre royal. J'ai beaucoup aimé lui faire faire ses essais parce que je crois que j'avais un peu les odeurs.
Oui, on les a aussi.
Et quand il fait de la nougatine, il enteste le craquant et il essaye de voir s'il n'y a pas un goût qui masque, si le caramel ne masque pas le goût des amandes. J'imaginais tout à fait cette saveur en bouche.
Mais ce qui est bien avec votre livre, c'est qu'après, ça nous enjoint à faire des recherches. Donc du coup, moi aussi, je suis allée chercher Louis XIII, les confiseries, les sucreries. Pourquoi est-ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il avait l'habitude de manger. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. On est enjoint à faire des recherches et ça, c'est très intéressant. Ce qui est aussi agréable dans votre livre, c'est que l'action se passe sur une terre qui est la Normandie, qui est une terre de richesse. Il y a de tout. Il y a la campagne, il y a les collines verdoyantes, il y a la mer, bien évidemment. Cette richesse, cette terre riche, qui appelle aussi, je trouve, à la création et à l'humain aussi. C'est ce qu'on ressent aussi dans votre livre, c'est que on sent que Rouen, la ville par elle-même, est un personnage à part entière.
Oui, complètement, parce que il y a d'abord à la fois une rivalité entre marchands normands et espagnols, il y a aussi le désir de les imiter, parce que les Espagnols avaient, comme ils avaient un grand réseau de frères, de cousins dans d'autres pays, on s'étonne de leur succès et on cherche à les imiter. On les imite aussi au niveau vestimentaire. On admire beaucoup leur littérature, encore une fois, leur théâtre aussi. Donc, c'est pas seulement la rivalité, c'est aussi une grande admiration envers cette communauté.
Oui. Et je me suis dit aussi à l'époque, au XVIIe siècle, les pays, les régions avaient leur importance parce que chacun avait son identité, son histoire, ses traditions. Alors, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est un peu plus enfoui dans le mondialisme. Ces terres-là, que ce soit la Normandie ou la Bretagne ou la Vendée, avaient leur propre histoire et leur propre identité. On pouvait les identifier peut-être plus facilement au niveau des us et coutumes. C'est ce que j'ai ressenti au travers de votre livre aussi. Il y avait une véritable identité.
Oui, aussi au niveau des monuments. Le gros horloge existe déjà.
Qui est magnifique.
Complètement. Je donne aussi toute l'importance aux pommes de la région parce que on a des noms de petites villes associées à des à des noms à des variétés de pommes et effectivement ça définit complètement la Normandie et c'est encore quelque chose qui marque encore la Normandie actuellement la référence aux pommes au cidre etc et surtout au sucre de pomme qui est complètement emblématique de Rouen
de la région comment écrit Brigitte Piéfer, c'est tôt le matin, c'est tard le soir, c'est l'après-midi, ou alors vous avez, comment dirais-je, une ligne de conduite pour l'écriture?
Alors en fait, c'est au moins une fois par jour, ça c'est sûr.
Oui.
Et la plupart du temps, le matin ou l'après-midi, là tout à l'heure j'étais en train d'écrire.
Oui.
Et ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'écris avec la feuille blanche et le crayon à papier et la gomme.
Oui.
Et le lendemain, je tape à l'ordinateur ce que j'ai écrit. Ça permet donc de reprendre ce que j'ai écrit, de peut-être d'enlever ce qui est superflu, de voir si c'est cohérent. Et surtout, ça me permet d'enchaîner avec une nouvelle page ou un nouveau chapitre.
Alors dans votre titre, ces deux grains de sucre, un soupçon de secret, finalement on se dit les grains de sucre finalement sont plus importants que les secrets, c'est ce qui va faire le tout et c'est au bout du compte c'est ce qui va gagner, c'est la douceur qui va gagner.
Oui, et puis c'était formulé un peu comme le titre est formulé un peu comme
une recette
de cuisine.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est vrai que c'est ce qui va l'emporter à la fin, ça va être la douceur, y compris pour mon héros, à fait. Mmh.
Alors, est-ce que vous avez déjà dans vos tiroirs, dans une malle, sur votre bureau, ou caché quelque part le sujet du prochain livre?
Oui, complètement. Il y a déjà 170 pages écrites.
Très bien.
Ce sera
une page d'histoire aussi, de la même façon.
Oui, bien sûr, sans dévoiler l'histoire complète, bien sûr, je vais rester fidèle à ma ligne directrice, l'Espagne et la Normandie, toujours unies, et donc avec le plaisir de mettre en avant des pans de cette histoire normande ouverte sur le monde hispanique.
C'est vrai,
Sont parfois un peu méconnus.
Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, on pouvait se dire que cette Normandie, parce que il n'y avait pas la mondialisation, c'est vrai, les transports étaient longs, c'était à cheval ou en diligence, donc les transports entre les villes, les régions, les villages et départements, c'était bien plus long. Et donc, on pouvait penser que les régions se refermaient sur elles et l'acceptation finalement de ces Espagnols qui arrivent, alors ça a sans doute été pas sans difficulté, mais finalement je trouve que c'est un bel exemple d'humanisme et d'association à l'autre.
Oui, parce qu'on a besoin de l'autre dans les échanges commerciaux, mais aussi dans le savoir-faire les choses, notamment pour revenir à ce confiseur.
Oui.
L'idée m'est venue parce qu'au XVIe siècle, les apothicaires de Rouen qui fabriquaient les sirops, les électuaires, etc., ne savaient pas manier le sucre comme les confiseurs espagnols et ne savaient pas faire, par exemple, des pâtes de fruits ou des confitures.
Ah,
et
oui.
Ils ont fait venir à l'époque un confiseur espagnol d'Andalousie. Et ils l'ont engagé pour 2 ans à Rouen. Et donc, pendant ce temps, il a appris, il a partagé ses connaissances avec les apothicaires de Rouen qui, après, ont pu progresser dans le domaine de l'élaboration des produits sucrés.
Comme
le sucre de pomme plus tard, ou bien les pâtes de fruits.
Et également, les produits pharmaceutiques aussi par la suite, du coup, aussi.
Le sucre, en fait, était considéré comme une espèce, on disait, de drogue à l'époque, drogue dans le sens de médicaments sucrés, enfin, pour entrer dans la composition des sirops, de...
Les choses pour la toux, enfin des trucs un peu, pour améliorer les petites difficultés respiratoires ou choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un livre passionnant. C'est une jolie histoire, mais de la douceur avec dans un petit monde de brutes quand même. Mais c'est une belle page d'histoire. C'est deux grains de sucre, un soupçon de secret aux éditions Calmann Lévy. C'était un vrai plaisir de vous recevoir, Brigitte Piéfer. J'attendrai avec impatience votre prochain roman. Savez-vous quand il sortira?
Je pense qu'on peut penser c'est qu'en avril 2023, quand voilà, à ces environs, ces dates-là, à peu près,
d'accord.
Oui, très certainement. Oui.
Bon, eh ben écoutez, en attendant, nous n'allons prendre que quelques grains de douceur en vous attendant. Voilà.
Merci beaucoup.
De grains de sucre, un soupçon de secret aux éditions Kalman-Lévy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte Piéfer. Merci. Quant à vous, je vous souhaite plein de douceur aussi et puis sans soupçon de secret. J'espère que cela vous mettra du baume au cœur, cette jolie histoire de confiseur à Rouen. Merci, à très bientôt. Merci de votre fidélité.